Donc je vous propose de prendre, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes pour une discussion. D'abord, peut-être entre nous, que je peux démarrer. Vous étiez connu, je crois aussi, à l'OIT comme le spécialiste de ce qu'on appelle les emplois verts ou le verdissement des emplois. Alors c'est une notion qui, encore aujourd'hui, pour moi, est mystérieuse. Dans quelle mesure est-ce que c'est lié ? C'est pas le retour à la campagne de tout le monde, j'imagine, tel que vous l'avez. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette thématique des emplois verts ? Alors.
Oui, d'accord. J'étais jamais très, très, trop heureux de ce terme. C'était imposé un peu pour quelqu'un de plutôt cartésien. C'est difficile comme notion, les emplois verts. Si on le pense bien, il y a plusieurs possibilités. Il faut, je crois que c'était clair de l'exposé de Loi Laurent, il faut qu'on commence à vivre avec nos moyens, avec les moyens de la Terre. Donc il faut que l'empreinte de l'activité économique soit moindre que la disponibilité des ressources renouvelables et à long terme sur Terre. Pour arriver à ça, il y a plusieurs possibilités. On peut essayer le découplage, comme l'a décrit Eloi, donc essayer de monter en efficacité d'usage, de génération d'énergie, d'usage de ressources de production, pour réduire suffisamment cette empreinte sans toucher à la production. Ou l'autre, et ce sera peut-être intéressant de discuter de ça, ce serait la question, est-ce qu'il nous faut de la croissance ? Est-ce que la croissance a du sens ? Est-ce que la croissance est possible en futur ? Et si, sinon, comment est-ce qu'on s'y prendrait ? Les emplois verts sont en fait pour y arriver d'une façon ou d'une autre, si pour réduire l'empreinte environnementale de l'activité économique, il faut qu'on arrive à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on soit nettement plus efficace pour l'utilisation des matières premières, qu'on arrête de polluer et qu'on soit capable de restaurer la biodiversité et les systèmes naturels et qu'on puisse s'adapter au changement climatique qui est déjà entamé. Et cette transition, elle requiert des qualifications et d'activités, un profil de travailleurs sans lesquels cette transition ne se fera pas. Un cas dramatique comme le monde travaille peut contaminer, c'est l'accident récent au Brésil, Brumadinho, un nouveau barrage, c'est le deuxième en 3 ans, en 5 ans, qui s'est cassé et qui a pollué tout un bassin versant. Et à mon avis, c'est la démonstration à quel point les travailleurs qui auraient dû prévenir cet accident sont importants pour y parvenir. Et c'est vrai pour celui qui gère l'utilisation d'énergie de ce bâtiment ou qui est un agriculteur qui arrive à produire sans épuiser le sol, sans réduire la biodiversité, sans émettre des gaz à effet de serre en outrance. Donc les emplois verts, c'est un des liens très directs entre le monde du travail et l'environnement. Et il faut absolument qu'on entende quels sont les perfils, les qualifications et les profils nécessaires à l'avenir pour réduire les impacts et comment former ces gens et comment permettre qu'ils puissent en entreprise faire valoir leur connaissance.
Oui, juste un mot là-dessus. En fait, il y a 10 ans, exactement 10 ans, l'OIT et l'UNEP ont publié ensemble, conjointement, ce qui est un des premiers rapports social-écologiques qui a été publié par les Nations Unies, qui était un rapport sur les emplois verts. Et à l'époque, on était dans la grande récession, puisque 2009, c'était la grande récession, donc une récession économique tout à fait considérable, qui a touché l'Union européenne plus encore que les États-Unis, alors qu'on pensait que c'était une crise américaine. Et l'idée, ça a été de dire, bah, au fond, on est au début du XXIe siècle, on a deux crises jumelles. Il y a une crise sociale et une crise écologique. Il faut trouver un moyen de les traiter conjointement. Et la réponse qui a été apportée alors, c'est on est dans une récession qui était une récession keynésienne, donc on va avoir une réponse qui est la création d'emplois. Et en fait, le rapport OIT-UNEP sur les emplois verts il y a 10 ans, c'était ça. C'était de dire la réponse pour à la fois relancer l'économie sans dégrader l'environnement, c'est de créer des emplois verts. En France, ça veut dire quoi? Ça veut dire développer les éco-industries. Les éco-industries, c'est d'un côté les industries qui sont spécialisées dans la gestion des ressources naturelles et de l'autre dans la protection de l'environnement. Et donc, vous avez eu des rapports en France aussi, par le ministère de l'Environnement, sur les emplois des éco-industries et sur le périmètre plus ou moins extensible des emplois verts. Soit vous prenez le cœur, les éco-industries, soit vous prenez les emplois dépendants, soit, par exemple, vous prenez les emplois de la transition énergétique. Mmh. Vous avez des modèles en France, comme le modèle Négawatt, qui vous montre que vous pouvez créer 300 000 emplois à horizon de 10-15 ans si vous décarbonez l'économie. Je crois que c'est très intéressant, c'est que ça, c'était il y a 10 ans, en 2009. Aujourd'hui, à mon avis, la nouvelle médiation entre le social et l'environnement, c'est plus tellement l'emploi, c'est la santé. Je crois que la grande médiation fondamentale entre le social et l'environnement, c'est la question de la santé. C'est ça qui fait le lien, en fait, fondamentalement entre ces deux questions. Mais pour vous dire que cette problématique des emplois verts n'a pas disparu, parce que ce que propose Alexandria Ocasio-Cortez aujourd'hui dans le Green New Deal qu'elle a proposé il y a 15 jours à la Chambre des représentants aux États-Unis, c'est très exactement de créer des centaines de milliers d'emplois en décarbonant l'économie américaine. Le Green New Deal, c'est de dire ben, on va faire la nouvelle donne de Roosevelt, sauf qu'on va la faire de façon écologique. Et vous pourriez penser, ah oui, mais la nouvelle donne aujourd'hui aux États-Unis, à quoi ça servirait, puisque le New Deal de Roosevelt, en 1933, c'était dans une économie qui était sinistrée par la Grande Dépression. Il y avait 25% de chômage. Aujourd'hui, l'économie américaine est censée être en plein emploi. Et en fait, si vous lisez attentivement, je vous enjoins vraiment de lire ce texte du Green New Deal. Ça fait 14 pages, c'est très facile à lire. Vous avez à peu près toutes les idées intéressantes sur la jonction entre le social et l'environnemental qui sont présentes dans ce texte. Et ce qu'elle montre, c'est qu'en fait, cette idée d'une économie de plein emploi aujourd'hui aux États-Unis, de croissance, de profit des entreprises, etc., est totalement fausse. Et qu'en fait, il faut traverser l'apparence de tous les indicateurs du XXe siècle pour comprendre que l'économie américaine est dans une récession de bien-être. Et en fait, on est exactement dans la situation de la récession, sauf que ce n'est pas la récession économique mesurée par le PIB, c'est la récession du bien-être. L'espérance de vie recule structurellement, elle reculera encore plus avec le changement climatique, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes, la confiance dans les institutions est absolument catastrophique. Donc en fait, si vous regardez les bons indicateurs de l'économie américaine, en fait, ils sont tous dans un état exactement de récession. Voilà. Et donc, c'est ça l'intérêt de... Donc cette question des emplois verts est encore d'actualité.
Oui, à mon avis, malheureusement, la mémoire est courte, donc on a vite oublié et pourquoi on avait cette crise de 2008 et aujourd'hui on pointe du doigt aux États qui ont des dettes importantes et on a oublié comment ces dettes ont été créées en sauvant les banques et en faisant des investissements. Par contre, les investissements ont plutôt bien marché. Ce que vous dites est vrai, mais il faut se demander comment cette équation se résout dans un continent comme le sud de l'Asie, l'Inde. Comment ça se résout dans un pays africain où on n'est pas du tout au plein emploi, où il y a d'autres crises à gérer encore, et où ça c'est un des grands défis de l'avenir. Et un autre élément qui reste d'importance aussi dans mon propre pays, aussi absurde que ce soit, c'est les transitions justes pour les travailleurs qui aujourd'hui sont dans des secteurs qui clairement sont insoutenables, qui ne sont pas durables, comme le charbon. En Allemagne, le lignite représente 8000 emplois directs, 8000 sur un marché de travail de 42 millions de personnes. On est incapable de sortir du lignite si on n'a pas de solution à proposer aux travailleurs du lignite.
Alors, du point de vue de... Oui, j'avais une question concernant l'OIT, plus précisément, qui a été mentionnée par, par vous deux. Elle a pris des positions, donc, après la crise, ou avait, disons, un témoignage d'intérêt pour prendre en main ou contribuer à prendre en main des questions environnementales. On sait que ces questions... n'ayant émergé, en tout cas dans la conscience publique, de façon tardive, aucune organisation internationale créée dans l'après-Seconde Guerre mondiale n'est en charge de s'en occuper, que les réponses qui ont été données ont tourné massivement autour de l'idée de créer des droits de marché à polluer. C'était une des grandes réponses. Enfin, là, je m'adresse à l'économiste, mais je me souviens d'une conversation que j'avais avec Jean Tirole, qui est un économiste éminent, qui me disait que le seul problème est d'arriver à fixer le juste prix de la tonne de carbone. Donc, je voulais savoir si vous pensiez que... Parce qu'à ce moment-là, il faudrait se mettre à calculer tout de suite, quoi. Quel dispositif institutionnel serait de nature à admettre des règles du jeu? Parce que là, il y a un parallèle avec les questions sociales, c'est-à-dire... Au fond, ce qui s'est passé à partir du moment où on a renoncé aux objectifs de solidarité et de justice sociale à l'échelle du monde qui avaient été tracés par Philadelphie, et le retournement se situe à peu près dans les années 70, c'est que ça a été au contraire un engagement de tous les pays avec la poursuite de leur avantage comparatif. Enfin, on a mobilisé Ricardo, et les avantages comparatifs, c'était une main-d'œuvre à bas coût et des ressources naturelles qu'on pouvait surexploiter. Donc c'est surexploiter les hommes et la nature, le message qui a été à peu près lancé. La capacité de l'OIT à freiner la surexploitation des hommes et des femmes reste encore à démontrer, mais alors sa capacité à lier ça à la question environnementale aussi. Vous avez évoqué avec un peu de mélancolie le rapport de la Commission mondiale. C'est une mélancolie que je partage. Bon, on aura l'occasion d'en reparler peut-être lors du troisième panel. Mais est-ce que... Bon, ça fait lien un peu à ce qu'on dira tout à l'heure, mais on peut quand même en parler dès maintenant. Est-ce que c'est pertinent? Quels sont les niveaux pertinents d'action du point de vue normatif? Est-ce que le niveau international reste un niveau pertinent si on veut éviter ces effets de dumping environnemental? Et quels sont les bons outils si ce n'est pas les outils de marché à polluer avec l'idée qu'on va créer un marché qui spontanément va régler les difficultés? Vous voyez, vers quel autre type de règles on peut se tourner. Il y a quelqu'un dans cette maison, Roger Guénry, qui avait travaillé, qui était très critique, lui, sur les idées de marché pollué. Donc il y a un débat interne aux économies. Ce serait peut-être intéressant que vous puissiez nous en dire quelques mots.
Alors, j'ai beaucoup de questions, là. La première question, c'est quid de la question environnementale ou sociale écologique dans l'arène internationale? Dans le monde des Nations Unies, il y a trois organisations qui sont concernées. L'OIT, qui a fait ce rapport, qui était un rapport un peu inaugural et qui, ensuite, à ma connaissance, n'a pas produit de travaux particulièrement marquants sur la question. Et en effet, j'ai été frappé de voir cette déclaration, enfin cette nouvelle charte du travail au XXIe siècle, et à peu près ne pas voir la question environnementale sur cette question, alors que je m'attendais vraiment à la trouver, en particulier sur la question de l'avenir de la protection sociale, puisque moi, je travaille beaucoup sur la métamorphose de l'État-providence en État social-écologique et dans la réinvention de la protection sociale au XXIe siècle comme protection contre les crises environnementales comme risques sociaux. Donc j'ai été un peu surpris de ne pas voir ça. La deuxième organisation, c'est l'UNEP. L'UNEP, qui est le programme des Nations Unies en charge des questions environnementales officiellement, qui s'intéresse beaucoup aux questions du climat et à l'état des écosystèmes, avec assez peu de liens vers les questions sociales. Pour moi, l'organisation qui travaille le plus dans la connexion sociale et environnementale, c'est l'OMS. C'est-à-dire que l'OMS, et notamment le fait que l'OMS a mis en avant la question de la santé environnementale de façon très nette au cours des dernières années, et qu'on voyait le travail d'une revue comme The Lancet, qui a lancé des commissions de travail sur cette articulation entre santé et environnement, sur la question des co-bénéfices apportés par les politiques environnementales en termes de bien-être, en termes de soutenabilité. C'est vraiment là que se situe l'activité. Puis il y a une autre organisation qui est en dehors du cadre onusien, qui est l'OCDE, qui produit énormément de choses sur les questions environnementales, mais là, beaucoup plus du point de vue de la croissance verte et donc de l'ancien paradigme du XXe siècle dans lequel on essaie désespérément de faire rentrer la question environnementale, ce qui, à mon avis, est une impasse, mais il y a un conflit au sein de l'OCDE entre le XXe siècle et le XXIe siècle. Espérons qu'il soit remporté par le XXIe siècle. La deuxième question, c'est de savoir quels instruments économiques on peut utiliser, etc. Cette phrase de Tirole est intéressante. Le juste prix du carbone. Donc, est-ce que je pense qu'il faut donner un prix au CO2? Oui, je pense qu'il faut tout à fait donner un prix au CO2. Simplement, il y a plein de moyens de le faire. La réglementation, ce que les Américains appellent le command and control, c'est-à-dire les normes et les standards, c'est une façon de donner un prix, en réalité, hein, puisqu'il faut ajuster les outils de production ou les biens à des normes, et c'est coûteux. Donc c'est une façon de donner un prix. La question de la taxation pigouvienne, hein, de Cécile Pigou, c'est une autre façon de donner un prix. Tout le débat sur les gilets jaunes, au cas où ça vous aurait échappé, on a un petit problème en France, ça fait 3 mois qu'on a des émeutes dans les rues le samedi. Et donc les gilets jaunes, c'est parti du fait que la fiscalité carbone, qui a été introduite dans le système fiscal français il y a environ 5 ans, l'a été sans aucune forme de compensation sociale, et qu'évidemment ça fait augmenter les inégalités, puisque le budget énergétique est beaucoup plus fort pour les plus pauvres que pour les plus riches. Et donc en 2009, donc là aussi il y a 10 ans, on avait une taxe carbone en France qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel, qui prévoyait des compensations sociales pour les 3 premiers déciles de la distribution des revenus sur la base du revenu et du fait qu'on habite les zones urbaines ou les zones rurales. Et figurez-vous que la taxe carbone de 2009 redistribuait de l'argent aux 3 premiers déciles des Français, ce qui est exactement les gilets jaunes aujourd'hui. Et que ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel, bon, on ne va pas rentrer dans le détail.
Alors, il y a donc beaucoup à dire sur le Conseil constitutionnel.
Oui, alors les économistes, n'en doute pas, les économistes ont déduit de cette décision de 2009, c'était en plus méchant parce que c'était le dernier jour de 2009, donc tout le monde pensait que ça allait passer. Je crois que la décision est du genre le 31 décembre 2009, parce que c'est vraiment cruel. Et donc les économistes ont déduit que le Conseil constitutionnel ne comprenait rien à l'économie. Moi, je me souviens d'avoir été à une conférence où on disait le Conseil constitutionnel ne comprend rien parce qu'il a censuré la taxe carbone sur la base de l'égalité des citoyens devant la charge publique. Or, il y a en Europe d'un côté un marché du carbone, comme le disait Alain Supiot, et de l'autre des taxes carbone qui ne taxent pas les mêmes émissions. Et donc, c'est normal d'avoir des entreprises exemptées parce qu'elles font partie du marché du carbone. En réalité, ce n'est pas pour ça que le Conseil constitutionnel a censuré. Il a censuré parce que les exemptions ne sont pas justifiées au but recherché. Et donc, si on réintroduisait, puisqu'il en est question en ce moment en France, une fiscalité carbone qui soit juste socialement, ce sera peut-être une des issues du grand débat national, eh bien, il est possible que le Conseil constitutionnel l'accepte au nom du fait que les compensations sociales sont justifiées par le but poursuivi, qui est précisément de faire une fiscalité carbone qui soit efficace. Donc, l'instrument de la taxation pigouvienne, et puis le quatrième instrument, qui sont les droits, les marchés de droits à polluer, qui ont été donc conçus initialement par Ronald Coase dans les années 60. Et donc, en Europe, on a ce marché du carbone, l'EU-ETS, qui a été créé à la suite du protocole de Kyoto en 2005, et qui marche extrêmement mal, et notamment parce qu'on ne contrôle pas du tout le prix, il n'y a pas de plancher, et donc ce qui fait qu'on a un prix en fait, du CO2 qui est en permanence victime de toutes sortes d'accidents, et donc ça marche très très mal. Mais donc la question, pour faire court, oui, il faut un prix du carbone, mais tout le point de la phrase, l'adjectif qui m'intéresse dans la phrase de Tirole, c'est juste.
C'est peut-être moi qui l'ai rajouté.
Le juste prix du carbone, c'est ça la question, c'est juste. Et juste, ça peut être entendu par un économisme étroit qui serait efficace,
correct,
ou juste, au sens juste socialement. Et toute la question, c'est quel est le prix socialement juste du carbone. Et là, on est dans des choses très compliquées, parce qu'il faut des prix qui soient justes au niveau intragénérationnel, au niveau intergénérationnel. Et donc, évidemment, là, on est dans des débats qui deviennent passionnants, mais c'est beaucoup plus compliqué que simplement l'idée que le marché du carbone va régler le problème.
Oui, si je peux ajouter quelque chose. Le prix juste, je crois qu'il y a beaucoup à faire pour tourner la réduction des émissions. On peut en faire un outil d'inclusion sociale. En France, moi j'habitais vis-à-vis un terrain qui est devenu un HLM, et quand il était construit, c'était d'office qu'il était extrêmement bien isolé et qu'il avait des panneaux solaires dessus, qui dans le village n'étaient pas courants à l'époque, parce que c'était une réglementation de la construction en France, que tout bâtiment nouveau HLM va être construit aussi. Si on se rend compte que 10% des frais des familles pauvres en France et ailleurs sont pour le seul chauffage, proposer un logement très très économique en consommation d'énergie est une mesure formidable de redresser les équilibres. Si on pense aussi transport public pour et pour les frais, l'alimentation. Il y aurait des moyens de compensation qui pourraient tourner à un juste prix à un instrument d'inclusion. Et c'est un débat qui est déclenché. Même l'OCDE a accepté finalement que revoir les subventions qui sont aujourd'hui données pour le secteur automobile, énergie et autres, si on veut revoir alimentation, parfois dans beaucoup de pays africains, il y a des subventions à l'alimentation. Si on veut les revoir, il faut absolument qu'on fasse ça d'une manière socialement juste. Et qu'on ne commette pas l'erreur de la taxe carbone en France. Un supplément, il y a une autre instance aux Nations Unies où maintenant la discussion travail, santé et changement climatique continue, c'est la Convention cadre sur le changement climatique. Et c'est grâce à la participation très active du gouvernement français de l'époque que le travail a été inclus dans l'accord de Paris. Donc il y a une ligne de travail sur la transition qui fait partie des négociations dans la commission cadre.
Ce qui me frappe un peu dans notre discussion, très intéressante, c'est... peut-être la pente inévitable aujourd'hui de considérer au fond les travailleurs comme des êtres déterminables à qui on envoie des signaux, que ce soit des signaux prix ou d'autres types de signaux, et qui vont s'ajuster à des signaux parce qu'ils sont envoyés par des autorités bienveillantes dans lesquelles on peut avoir confiance. Si on prend la crise des Gilets jaunes que vous évoquiez tout à l'heure, on leur envoyait comme premier signal qu'il fallait être prêt à aller dans l'autre département pour chercher un emploi. Les plus hautes autorités de l'État leur ont dit qu'il faut aller dans l'autre département. Et puis ensuite, on leur dit « Ah, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de polluer le truc. » Donc, les gens sont pris dans des situations de double bind. Or, toute l'expérience qui nous a été rapportée sur le syndicalisme agricole montre que l'un des leviers pourrait être la conception même du travail. Le travailleur lui-même, la prise qu'il peut avoir sur son travail, la possibilité pour lui de s'exprimer. Or, ce qui était le propre de la construction juridique du contrat de travail qui a été le produit du 19e et du 20e siècle, c'est l'exclusion du travail en tant que tel du champ de l'analyse juridique. C'est-à-dire, ce que l'on saisit, c'est la relation de travail. C'est d'ailleurs été le thème obsessionnel aussi de la sociologie du travail. Enfin, on parle des relations du travail. Mais l'acte de travail lui-même est exclu, il est en renvoyé à un savoir technique. Or, on voit malgré tout ressurgir le sujet de la... non pas de la mobilisation totale des travailleurs, mais d'un droit à la parole, comme on disait. Ça, c'était après les lois au rouge, je me rappelle, le droit d'expression des travailleurs. Mais enfin, c'était quand même l'indice de quelque chose à ce moment-là, de parler de droit d'expression. Est-ce qu'il n'y a pas des pistes dans cette direction pour faire en sorte que, par exemple, le syndicalisme, disons, hors du syndicalisme agricole, il y ait cette prise de conscience, il y ait un poids réel dans la façon dont on pratique la négociation collective sur ces sujets, qui supposerait de nouveaux dispositifs de négociation collective. Sur le droit à la parole, si vous vous rappelez de l'affaire du Rana Plaza, les travailleuses avaient commencé par dire « on ne veut plus rentrer dans cet immeuble, il va s'effondrer ». Et elles l'ont été parce qu'elles étaient menacées tout simplement. Alors, en France, on aurait pu dire qu'il y a un droit au retrait. Donc il y a des dispositifs, il y a des droits d'alerte. Il y avait un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail qui a été malencontreusement supprimé par les dernières réformes, enfin confiées au comité social et économique. Donc il n'a pas disparu, il a disparu dans ses fonctions en tout cas. Donc nous avons des instruments en droit du travail qui peuvent faire pont avec la question environnementale, mais à condition de considérer les travailleurs comme des sujets pensant leur travail et la finalité de leur travail, et pas simplement comme soumis à des signaux qu'on leur envoie, ça évoque la discussion qu'on a eue ce matin, qui les ferait se comporter, puisque là, on est dans un behaviorisme de base, de façon cohérente. Mais si on rentre dans cette discussion, on voit bien à quel point les dernières réformes, là encore en France, mais enfin, les réformes françaises sont au diapason des consignes qui sont données partout, hein, de la négociation collective, dire que le problème, c'était... Prenons un exemple agricole, moi, qui me tient beaucoup à cœur, celui de ces malheureux qui, dans les années 60, j'ai connu Bernard Lambert. Je le revois au milieu de son poulailler industriel, me disant « Elles sont heureuses, en parlant de ces poules. » On a engagé toute cette partie de la France dans une impasse écologique et économique. Aujourd'hui, le problème, c'est la même chose que pour les aux mineurs de lignite. Qu'est-ce qu'on fait ? Les gens peinent durement pour des salaires de misère et dans des conditions qui sont polluantes, qui font de la concurrence déloyale à l'agriculture dans les pays du Sud. Enfin, c'est un... Comment on sort de là ? Alors, on peut penser que c'est par des dispositifs de négociation collective. Ils sont autre chose que de demander aux propriétaires du petit élevage de négocier un code du travail par élevage. Vous voyez, est-ce que c'est vraiment ça le problème aujourd'hui en matière de négociation collective ? Ou est-ce que nous n'aurions pas besoin de dispositifs de négociation à l'échelle territoriale où on se met d'accord en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait en Bretagne aujourd'hui, quoi, pour... On s'est engagé dans une impasse, comment on en sort ? Et à ce moment-là, il faut qu'il y ait les collectivités locales, qu'on sorte du schéma binaire de la négociation collective habituelle. Vous voyez ce que je veux dire ? Si on tire le fil de la notion d'emploi vert, en prenant pas simplement l'objet d'une industrie ou d'une activité, mais la façon même de concevoir le travail, il y a beaucoup de choses qu'on est amené à revisiter en droit du travail. Vous pensez que l'exemple du... Campesina, ou... parce que c'est très frappant cette affaire de ce qui s'est passé. Et je ne sais pas si vous avez des informations sur la pêche, parce que.
Ah, sur la pêche.
Non, pas sur la pêche. Bon. Non, mais c'est la Bretagne, vous voyez, c'est un tropisme. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe, je ne sais pas, la CGT, la CFDT, est-ce que le MEDEF a produit des choses significatives sur ces sujets-là, à votre connaissance
Comme vous l'avez dit, je ne suis pas un spécialiste des syndicalismes ouvriers. Néanmoins, je sais qu'il y a quelques travaux qui ont été faits tout récemment. Un numéro spécial d'écologie et politique, celui dans lequel auquel j'ai collaboré, il y avait effectivement des exemples, mais un peu datés, d'actions de la CFDT, je crois, dans la région de Lyon, bon. dans le couloir de la chimie. Mais juste sur l'agriculture, puisque c'est le... Hein, ce qui me semble intéressant, c'est cet alliage de contestation générale, politique, etc., et puis d'essayer d'expérimenter en même temps. Mais bon, c'est parce que c'est des petits producteurs indépendants, ce qui n'est pas le cas.
Oui.
C'est une question qu'on n'a pas abordée et il me semble très important. Il y a cette coexistence actuellement entre l'agro-industrie et les paysans. Elle mène à des effets assez pervers. Du côté paysan, je vous avais posé la question lors du déjeuner, et il me semble qu'elle n'est pas résolue. C'est une question qui n'est pas une négociation collective, mais c'est une... Enfin, à moins que le collectif soit la société, parce qu'il faut commencer à être prête à payer le juste prix pour une agriculture saine et durable. Et ce n'est pas le cas. Enfin, je crois que ce n'est pas le cas en France et ce n'est pas le cas, de toute façon, ce n'est pas le cas en Allemagne. Les agriculteurs vivent mal. Même les agriculteurs qui cherchent pratiquer une bonne agriculture. Donc il faut vraiment élargir le débat. Et je profite pour un commentaire sur les pays du Sud. Il était question de la Chine et de la Chine gourmande, etc. On pointe du doigt au Brésil quand il y a le déboisement, la déforestation de l'Amazonie, la perte de biodiversité. Mais en fait, qui achète le soja qui est produit là ? Qui achète l'huile de la Malaisie et de l'Indonésie qui est produit dans les forêts, c'est nous. Donc là, je crois que là, il y a aussi une confrontation avec la réalité qu'on devait faire, que 50% des gaz à effet de serre qu'on a sont émis par les 10% plus riches de la population du monde, et c'est nous tous, c'est nous. C'est nous. Donc, il faut. Il y a vraiment des questions plutôt très, très inconvénientes qui se posent, dont vous aviez parlé de la sortir de la croissance. Je crois que ce serait un débat qui vaudrait la peine. Et ce n'est pas clair que ça donnerait pour le futur du travail une sortie de la croissance.
Je voudrais faire trois. Oui, trois, pardon.
Puis après, on prendra quelques questions.
Ah oui, d'accord. Donc, juste. Je n'ai pas eu le temps de développer. Il y a quand même quelques avancées, peut-être locales, insuffisantes, etc. Bon, par exemple, si on prend l'exemple de la France, l'agriculture biologique est passée de peanuts, c'est-à-dire moins de 3% en une dizaine d'années, à quasiment 10% des exploitations, bientôt 10% des exploitations certifiées bio. Bon, non, la consommation d'engrais chimiques en France, par exemple, a diminué là, depuis quelques années. Par contre, elle a augmenté dans d'autres pays d'Europe, en Europe de l'Est, par exemple. Mais vous voyez des avancées. Deuxième chose, il y a une question évidemment de rapport de force, même si c'est sale de le dire, de syndical. Et il y a autre chose, ce qui me semble important, vous disiez comment diffuser l'information, les expériences et les avancées, c'est quand même que ce soit via Campesina ou la Confédération paysanne, il y a cette idée qu'on n'attend plus le savoir de l'expert, du scientifique, du technicien et du chercheur. Donc il y a vraiment, ils insistent, ils sont en train de faire un programme d'agroécologie au niveau européen, etc. Mais bon, il y a bien cette idée, c'est de paysan à paysan. Alors ça, en espagnol, c'est encore plus joli, évidemment, mais que ce soit au Brésil, pas en espagnol, mais ou à Cuba ou ailleurs, il y a cette idée que ce ne sont pas des experts qui doivent leur dire ce qu'il faut faire. Voilà.